C'est toujours Parasol et Bordola, votre quotidienne d'été, de 11h à 13h du lundi au vendredi. Et tout de suite, Pauline, qu'est-ce que c'est ?
C'est autour de l'actu.
Attention, jingle.
Votre responsabilité, c'est d'aller partout en France pour le porter.
Ils sont là. J'ai toujours tenté, et je me suis efforcée, de vous informer.
Mais qui elle est, celle-là ?
Coucou.
Le tour de l'actu, c'est tout de suite avec Raphaël et Pauline sur Radio Campus Tour 99.5.
C'est donc le tour de l'actu à 11h30, comme chaque lundi pendant tout l'été, et je suis accompagnée de Pauline.
Salut Raphaël.
Alors Pauline, tu peux nous dire un petit peu plus donc sur le thème d'aujourd'hui ?
Aujourd'hui, on reçoit Victor Génaud, bonjour, pour parler de notre thème du jour, Je suis jeune et de gauche, qui est donc le pendant inverse de notre émission de la semaine dernière, Je suis jeune et de droite, enfin inverse, on verra si c'est vraiment le cas, ou s'il y a plus de points communs que de différences. Et puis du coup, c'est ce qui s'inscrit dans une série de trois émissions, puisqu'on avait commencé par parler du syndicalisme et de l'engagement, et du déterminisme de l'engagement chez les jeunes.
Exactement, d'ailleurs vous pouvez retrouver tout ça sur le site de la radio www.radiocampustour.com, et vous retrouverez les podcasts, rubrique podcast, justement. Et petite précision, Victor, vous connaissez Pierre-Antoine qu'on a reçu la semaine dernière ?
Tout à fait, je connais bien Pierre-Antoine. Ouais.
Voilà, vous connaissez bien Pierre-Antoine, c'est ce qu'on a cru comprendre. On va commencer aux questions tout de suite, Pauline. Vas-y, je te laisse ouvrir.
Alors, pour te présenter, Victor Génaud, tu es militant à la France Insoumise, et tu as 21 ans. Et tu es en études de droit, si je ne me trompe pas.
Eh bien, tu te trompes, Pauline, puisque j'ai effectivement fait un passage par la faculté de droit, mais surtout depuis quelques semaines, pardon, je suis tout jeune chef d'entreprise.
D'accord, ok. Alors, j'ai une première question du coup sur ton parcours d'études. Est-ce que tu penses que ton orientation politique, elle a été déterminante, au moins influente sur ton parcours d'études ?
Peut-être pas déterminante, mais en tout cas, elle a forcément eu une influence. J'ai fait toute ma scolarité dans un lycée privé, qu'on peut qualifier peut-être de droite, en tout cas catholique, dans l'enseignement privé. Et paradoxalement, j'ai milité à gauche, peut-être en réaction aussi à cet environnement. Moi, j'ai une famille qui est plutôt à gauche, en tout cas mes parents. Donc en tout cas, oui, ça a sans doute eu une influence, oui.
Et alors après, dans le supérieur, tu t'es dirigé vers quelle filière ?
Alors dans le supérieur, moi, je me suis d'abord effectivement dirigé en fac de droit. J'y ai fait un passage relativement court, même très court. Le droit me passionne, je trouve que le système de la faculté ne me convient pas. Bon, et ensuite j'ai fait des études de gestion à distance, cette fois avec une école de commerce à distance, donc en prenant des cours en télétravail. Donc, j'étais déjà en télétravail avant le confinement, ça n'a pas beaucoup changé pour la suite. Et donc j'ai effectivement un bac plus 2 en gestion.
Et donc maintenant tu nous disais, tu es tout fraîchement chef d'entreprise, c'est ça ?
Tout à fait, puisque j'ouvre un magasin à Saint-Cyr-sur-Loire, à boulevard Charles de Gaulle, qui est un vide-grenier permanent en franchise.
D'accord. Et alors, d'ailleurs, bah, dans ce choix professionnel d'études, dans quelle mesure tu penses que ton orientation politique, elle a été influente ?
Alors, j'ai tendance à cloisonner ma vie professionnelle et ma vie politique. Bon, je ne suis pas du tout élu, hein, mais je suis bon, militant, effectivement. C'est quelque chose qui est prenant, qui est chronophage, bon, qui est très épanouissant, et qui fait partie de ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Est un autre pan de ma vie, et autant que faire se peut, j'essaie de cloisonner. Après, bien sûr que, évidemment, mes idéaux politiques et mon engagement politique fait partie intrinsèque de ma vie et que je ne peux pas totalement le couper lorsque je suis dans ma vie professionnelle. Mais autant que faire se peut, j'essaie de cloisonner à minimum.
En particulier en étant, du coup, en ayant des salariés, en étant chef d'entreprise, j'imagine que ça influence nécessairement ta façon de faire de la gestion.
Tout à fait, bien sûr, ça influence forcément ma gestion. Je ne peux pas envisager de payer quelqu'un au SMIC quand je me verse une rémunération qui est plus élevée. Alors pour l'instant, je n'ai pas de salarié, mais ça va arriver très rapidement, parce que là, on est dans la phase de travaux pour l'ouverture du magasin. Mais en tout état de cause, effectivement, je ne saurais payer quelqu'un au SMIC en me versant une rémunération qui est supérieure. Alors de ce point de vue-là, effectivement, la politique et mes idéaux influent sur ma vie professionnelle.
D'accord, ok. Raphaël, peut-être que tu veux passer à la prochaine partie des questions ?
Oui, parce que tu nous as dit que tu étais dans un lycée qu'on pouvait qualifier de droite, et est-ce que tu parlais déjà de politique au lycée, et est-ce que tu te sentais plus de droite, plus de gauche, et est-ce que tes amis, bah, ils étaient plus à droite ou plus à gauche ?
Alors, moi j'ai commencé à militer en 2012, j'avais à peine 14 ans à l'époque quand j'ai commencé à militer, Donc j'étais effectivement collégien, lycéen dans ce même établissement, qui était effectivement un établissement plutôt à droite, hein, bon, sans haine ni sans reproche, hein, c'est comme ça. Moi je regrette pas du tout d'avoir fait ces années-là là-bas, bien au contraire. J'avais des amis qui étaient finalement de tout bord politique. J'ai jamais sélectionné mes amis selon une identité politique, déjà parce que beaucoup ne sont pas spécialement politisés. Ils peuvent avoir des idées, mais sans être partisans, spécialement d'un mouvement ou d'un parti politique, quel qu'il soit. Du reste, effectivement, bon, j'ai des amis de droite, j'ai des amis de gauche, à l'extrême gauche, à l'extrême droite, très très peu quand même. Beaucoup. Mais quand même.
Mais alors, qu'est-ce qui t'a influencé à être de gauche? Est-ce que c'est tes parents qui avaient cette orientation politique? Qu'est-ce qui était déterminant pour toi dans la construction de ton identité politique, tu penses?
Alors, ce qui est déterminant, je pense, dans mon identité politique, bon, alors effectivement, il y a tout un ensemble de déterminismes, effectivement, familiaux. Bon, mes parents sont des gens plutôt de gauche. Ça influe forcément, même si on ne parlait pas spécialement de politique à la maison. J'entendais mon père parler de politique avec ma mère, mais globalement, bon, quand j'étais enfant, mais je m'intéressais pas, je sais pas. Ensuite, bon, alors en 2012, si ma mémoire est bonne, il y a eu l'opération bordure protectrice, pardon, à Gaza, une offensive israélienne sur les territoires de la Palestine occupée. Ça a eu pour moi, avec les réseaux sociaux, etc., une forme de prise de conscience des enjeux du monde aussi, des enjeux de la guerre au XXIe siècle, d'offensives armées, etc. Et il s'est trouvé qu'à peu près à la même période, j'ai fait un voyage en Égypte. J'ai passé 2 semaines en Égypte en 2012, c'était l'époque du printemps arabe et des révolutions dans le Maghreb, et j'ai vu quelque part la misère en Égypte, dans certains quartiers du Caire, vraiment la misère, des gens qui vendent des mouchoirs au carrefour pour subsister. Et évidemment, ça n'a pas pu me laisser indifférent. Et je pense que, disons que la trame de mon engagement politique, c'est surtout la lutte pour la dignité humaine, pour l'égalité des droits, et pour tout simplement pour le droit à chacun de vivre dignement.
Et d'ailleurs, ces idéaux, comment tu les exprimes? Parce que tu nous as dit que tu as commencé à militer très tôt, et du coup, est-ce que tu as déjà fait des manifestations, des choses comme ça? Et d'ailleurs, quand était ta première manifestation, et pourquoi?
Alors ma première manifestation, c'était une manifestation à Blois. C'était justement pour mettre en lumière ce qui se passait à Gaza, en Palestine, avec l'opération Bordure Protectrice à l'époque. Donc c'était vraiment la première manifestation à laquelle j'avais participé. Je ne l'avais pas dit à mes parents, j'avais été en douce. ça a fait peur à ma mère. Ça a laissé assez indifférent mon père, qui était très content que je m'occupe un peu de politique. Il trouvait ça très intéressant pour moi. Et effectivement, bon, des manifestations, j'en ai fait beaucoup. Bon, il y a eu effectivement la loi travail en 2016. À l'époque, j'habitais à Blois, j'étais en tête de cortège avec un mégaphone. Il y avait la loi travail. Il y a eu tout un tas de manifestations. Alors, plus récemment, pour la réforme des retraites, où j'étais sur les manifestations à Paris. La dernière manifestation que j'ai faite, c'est à Tours. C'était le 8 mars. C'était pour la journée internationale de lutte pour le droit des femmes.
Ok, c'était justement la question que j'allais te poser. D'ailleurs, tu parlais du coup de tes parents, la réaction qu'ils ont eue quand t'es allé en manifestation. C'est une source de conflit pour toi, parfois, la politique, dans ta famille ou avec tes amis?
Pas du tout. Alors, dans ma famille, pas du tout. Mes parents étant à peu près sur la même ligne politique que moi. Ou plutôt, je suis sur la même ligne politique qu'eux. Donc, vraiment, aucun conflit familial sur la politique. Avec mes amis, des conflits, non. Des discussions, oui. J'ai beaucoup d'amis de droite, Pierre-Antoine effectivement, que vous avez interviewé la semaine dernière, en fait partie. C'est un ami avec qui on aime bien se taquiner, forcément. Des conflits, non. Des débats, oui, beaucoup.
C'est quelque chose de déterminant pour toi, ton identité politique, dans ton identité globale?
Bien sûr, bien sûr. L'identité politique de quelqu'un est évidemment, surtout pour un militant, qui est une part importante de sa vie. Je le disais tout à l'heure, le militantisme, c'est quelque chose qui est prenant, qui est chronophage, qui éventuellement parfois coûte de l'argent aussi. Donc forcément, c'est une partie importante de l'identité de l'humain. En tout cas, pour moi, c'est une partie importante de ma vie.
Alors Pierre-Antoine, la semaine dernière, nous disait qu'il s'était, vu qu'il se sentait de droite, il s'était un petit peu engagé vers des études de droit pour servir son pays. Voilà, il mettait ce genre de conviction. Et toi, pourquoi tu as choisi d'aller faire des études de droit au début aussi pour...
Puis après, de gestion.
Et de gestion après.
Alors, je suis arrivé au droit un peu par hasard. Mais avec la conviction que je pouvais servir mon pays de cette manière, c'était peut-être pas en étant législateur ou en faisant partie des corps d'État, mais en tout cas, pourquoi pas en exerçant le métier d'avocat pour défendre pour défendre des gens, parce que la justice d'un pays participe à ce que la République donne de crédibilité à la dignité humaine. Et donc pour moi, il était important que de pouvoir plaider en défense de ceux qui ne pouvaient pas le faire. Donc ça fait partie des choses qui m'ont amené à faire du droit. Il y a eu le côté éloquence aussi avec les plaidoiries. Bon, effectivement, le droit, j'y étais un peu comme ça. Après, la gestion, c'est ce qui me plaît. C'est ce qui me plaît d'organiser, de gérer, de la logistique à faire, à traiter. C'est un chef d'entreprise, c'est un métier assez vaste, assez complet. On n'a pas le temps de s'ennuyer.
Donc c'est plus sur un point de vue de vouloir découvrir la chose, le droit de la gestion, plutôt que via des idéaux ou... Enfin, tu penses qu'il y a un lien, en tout cas, ou c'était juste vraiment...
Non, je pense pas. Okay. Peut-être pour le droit, oui, il y a peut-être un lien avec le droit, encore une fois, hein, cette idée que la dignité humaine passe avant toutes les autres, passe avant toute autre chose. Mais pour la gestion, non, c'est vraiment une curiosité et un attrait personnel pour la gestion.
D'accord. Pauline ?
Mais alors, qu'est-ce que ça représente, la politique, pour soi, dans ta vie ? Ça prend quelle part ? Tu parlais de ton militantisme, ça doit prendre une part importante, parle-nous-en.
Une part importante dans ma vie, au-delà du temps, c'est essayer, parce qu'on peut pas toujours, mais essayer de mettre en adéquation ses principes et ses actes. C'est essayer de prendre le vélo pour aller faire des courses, pour aller faire des petites courses, on peut essayer de prendre le vélo. Bon, même quand on n'est pas sportif, comme moi, on essaye. On essaye déjà de mettre en adéquation ses idéaux et ses actes. Donc, ça passe par tout un tas de petites choses. Ça passe par ne pas prendre l'avion, par exemple, et éviter de prendre l'avion. Quand on peut prendre le train à la place, oui, Paris-Marseille en avion, c'est pratique, c'est une heure, mais bon, le TGV met 3 heures, c'est pas non plus un drame. Ce genre de choses, déjà. Donc, la politique est au plus sens plus large, les idéaux, c'est déjà, quand on est militant, essayer, encore une fois, de mettre en adéquation ses actes et ses paroles. Déjà, c'est une bonne part hein, pour un ouais. militant.
Et après, du coup, toi, spécifiquement, au sein de la France Insoumise, ça prend quelle forme, le fait de militer ?
Le fait de militer, c'est aller distribuer des tracts sur un marché. Là-dessus, on est tout à fait en accord avec la droite. Hein. On fait la même chose. Hein. On va distribuer des tracts sur les marchés. On va manger une rillette sur un des stands. On va boire un coup avec des gens qui ont envie de parler. On va coller des affiches. On organise des manifestations. À gauche, c'est vrai que plus qu'à droite, on est assez attaché au principe de la manifestation. On organise des pétitions. Tout ce que le militantisme peut offrir de champ, et encore plus aujourd'hui avec les réseaux sociaux et avec le numérique, quelque part faire une interview sur Radio Campus pour parler de l'engagement à gauche, c'est une forme de militantisme.
Exactement, et vous restez avec nous, on va marquer notre première pause musicale, vous êtes dans le tour de l'actu dans Parasol et Bordeloire, votre quotidienne d'été de 11h à 13h sur Radio Campus Tour. On écoute tout de suite Philippe Catherine, Danser entre hommes, on se retrouve tout de suite après.
Alors on va y aller. Danser entre hommes.
Philippe, t'as pas peur ?
On éteint la lumière. Et je prends un verre. Danser entre hommes. Mais pas sur du passo doble. Travailler, c'est travailler. Quoi de mieux pour la santé ? Danser.
Pareil, c'est pour ça qu'on aime danser entre hommes.
C'était Philippe Catherine, danser entre hommes sur Radio Campus Tour. Vous êtes dans le tour de l'actu, votre chronique un petit peu politique dans votre quotidienne d'été par Sol et Bordeloire de 11h à 13h du lundi au vendredi tout l'été. On était donc avec Victor et hors antenne, tu nous disais que tu avais participé au concours Éloquence. Qu'est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ?
Tout à fait, je fais partie d'une association qui s'appelle Tour Éloquence, qui est une association étudiante qui est basée à la faculté de Tours. C'est une association qui vise à développer les arts oratoires et à aider tout à chacun à prendre la parole et à être plus à l'aise à prendre la parole en public. Donc c'est une association qui se regroupe chaque semaine en permanence, à la faculté de droit. On essaye de s'exporter un peu au Tanner, mais on a un peu de mal parce que c'est pas forcément évident. Mais on essaye. Et donc c'est une association qui vise à aider les étudiants et d'autres d'ailleurs, parce qu'on n'a pas que des étudiants qui viennent, à prendre la parole en public, à être plus à l'aise avec la prise de parole en public.
C'est un engagement politique en fait en soi.
Absolument. Absolument. Aider à prendre la parole en public, c'est quelque chose d'extrêmement politique, avec la politique avec un grand P. C'est donner la parole à ceux qui ne veulent pas la prendre, ne savent pas la prendre, ou n'osent pas la prendre tout simplement.
Du coup, tu parlais de l'engagement politique en faisant de l'éloquence, mais qu'est-ce que ça représente comment tu pourrais définir la politique qu'est-ce que ça recoupe la politique ?
Eh bien, on va commencer par dire une chose, tout est politique. En réalité, dans le fond, tout est politique. Tout n'est pas forcément partisan, mais fondamentalement, tout est politique. Faire une interview sur Radio Campus est quelque chose de politique. Décider d'aider des étudiants à travers une association d'éloquence à prendre la parole, c'est politique. La politique avec un grand P, c'est la vie de la cité. Et j'en profite pour dire quelque chose de fondamental à mon sens, c'est qu'il faut absolument ramener les gens, ramener les jeunes aussi, parce qu'il y a des taux d'abstention qui sont monstrueux chez les jeunes, ramener les gens, les jeunes, à la politique. Non pas forcément à un parti politique, non pas forcément à un mouvement ou à un groupe ou à un groupement politique, mais ramener les gens à s'intéresser à la vie de la cité. Parce que s'ils ne s'occupent pas de politique, la politique, elle, s'occupe d'eux. Et ça, c'est fondamental à comprendre. Mmh. C'est que quand la droite vote des lois qui sont antisociales, qui sont des destructions acharnées du code du travail, les ouvriers n'en ont pas forcément conscience. Peut-être se sont-ils abstenus aux dernières élections, présidentielles, que sais-je, législatives. Mais la politique s'occupe d'eux. Eux ne s'en occupent peut-être pas, mais de la même manière chez les jeunes. Faire voter au conseil municipal, par exemple, c'est ce qu'on va essayer de faire, la gratuité des transports en commun pour les jeunes, c'est éminemment politique. Donc même si les jeunes ne s'occupent pas de politique, la politique, elle, s'occupe d'eux. Donc voyez comme tout est lié dans ce sens-là.
Et justement, ce serait pas ton travail, mais au sens large des militants au sein des organisations politiques, justement, d'attirer les gens, de les conscientiser, de leur dire, voilà, par exemple, le Parlement va prendre l'initiative de faire voter cette loi, etc.
Oh, ce serait un peu péremptoire de parler de conscientisation, mais en tout cas, oui,
d'éveiller l'intérêt.
Au moins de susciter l'intérêt et peut-être d'éveiller, pourquoi pas, des vocations militantes, hein, parce que tout à chacun peut être militant à son échelle. Donc oui, effectivement, c'est le travail du militant que de tenter, en tout cas, de ramener les gens à la politique. Encore une fois, à la politique avec un grand P, hein, c'est pas uniquement la France Insoumise ou les Républicains, mais au moins avoir conscience des enjeux de la politique et de la gouvernance de la nation.
Mais alors, au-delà des partis, on voit quand même qu'il y a une façon de militer un peu différente à droite et à gauche au travers de nos entretiens différents. Est-ce que pour toi, le clivage gauche-droite, c'est encore une réalité matérielle ou est-ce que c'est devenu une vue de l'esprit ?
Oui, le clivage. Non, alors, c'est pas une vue de l'esprit. Le clivage gauche-droite existe toujours. J'attends encore que la droite de M. Fillon défende les droits des LGBT. J'attends encore, pour être tout à fait honnête, je ne l'attends pas, que la gauche se mette à voter contre le mariage pour tous, encore que d'aucuns l'ont fait en leur temps. Donc, il y a encore un clivage gauche-droite. Je ne crois vraiment pas à la théorie selon laquelle M. Macron aurait fait voler en éclats tous les clivages de ce pays. Bien au contraire, je crois qu'il les a renforcés avec beaucoup de talent, si on doit au moins lui reconnaître ça.
Du coup, tu nous parlais du clivage gauche-droite, mais ça repose sur des valeurs. Qu'est-ce qui sont pour toi les trois valeurs structurantes de la gauche et de ta gauche à toi ?
Une première qui me vient à l'esprit, c'est l'idée de souveraineté. De souveraineté populaire, au sens où le gouvernement est désigné, in fine, par le peuple. Alors, à travers les élections, etc., mais in fine, c'est le peuple qui décide. Et en ce sens, la République est quelque part incomplète tant que le peuple n'est pas souverain en tout et pour tout. Ça revient avec ce qu'on disait tout à l'heure de ramener les gens à la politique. C'est que la souveraineté populaire, elle se fait quand le peuple est conscient de la gouvernance de la nation.
Donc l'idée, ça serait que les citoyens lambda, comme nous tous, puissent désigner les ministres et le Premier ministre.
J'ai peut-être fait un raccourci qui n'était pas très clair. J'ai peut-être fait un raccourci qui n'était pas très clair en disant que le gouvernement était désigné par le peuple. C'est pas exactement ça. La Ve République et le droit constitutionnel fonctionnent d'une certaine façon. Évidemment, il ne s'agit pas de désigner les ministres, mais in fine, lorsque vous élisez le président de la République, que vous élisez l'Assemblée nationale, in fine, vous désignez d'une certaine façon les ministres. Vous ne désignez pas les personnes, mais vous en désignez la couleur politique d'une certaine manière.
Mais alors d'ailleurs, pour toi, c'est intéressant. Est-ce que la Ve République, c'est de gauche, par exemple ?
Non, la Ve République, j'aurais tendance à dire qu'elle est apartisane, mais qu'elle est monarchique, surtout. Elle est une forme de monarchie. D'ailleurs, on parle assez souvent de monarchie présidentielle. Je trouve ça assez juste, parce que fondamentalement, le fait de pouvoir gouverner par ordonnance... de s'asseoir assez allègrement sur ce que représente le Sénat et l'Assemblée nationale, eh bien c'est une forme de monarchie. Alors je ne dis pas que nous vivons dans une dictature, encore qu'il y ait quelque chose de totalitaire dans la gestion de ce pays. Je pense par exemple aux violences qu'il y a eu lors des manifestations des Gilets jaunes, par exemple, les violences policières qui sont absolument innommables dans un état de droit. Disons-le, hein. C'est pour moi c'est vraiment, ça me donne la nausée de voir 8 policiers s'acharner sur un homme à terre. C'est pas du maintien de l'ordre, c'est de la brutalité, disons-le.
Et tu nous parlais de monarchie présidentielle, donc si tu pouvais choisir le prochain président de la Ve République, tu choisirais qui ?
Ou présidente. Juste,
ou présidente.
Ah, président ou présidente.
Pas besoin de développer.
Mais Monsieur Mélenchon.
Monsieur Mélenchon ?
Je pense que c'est le seul qui a une vision. Mais au-delà de Monsieur Mélenchon, c'est l'avenir en commun, le programme que l'on a porté en 2017 avec la France Insoumise. C'est pas uniquement Mélenchon.
Mais pas
j'exhorte
personne.
Les gens de comprendre qu'il n'y a pas que Mélenchon à la France Insoumise. Bien sûr, c'est la clé de voûte de ce mouvement. Bien sûr, la France Insoumise s'est créée sous son impulsion et l'impulsion d'autres autour de lui. Et ça a donné un mouvement politique très intéressant au demeurant, avec des idéaux, des valeurs qui sont portées par un programme qui s'appelle L'Avenir en commun, qui est disponible sur Internet gratuitement, que vous pouvez aller lire, et qui regroupe vraiment tout un panel de projets qui vont de la proposition sociale à l'économie de la mer, qui vont de traiter de la règle verte, de la transition énergétique, à tout un tas de sujets qui sont intéressants et qui traite également de la 6ème République, parce que c'est là la clé de voûte. Nous, à la France Insoumise, nous ne disons pas que nous sommes contents de la 5ème République, nous pensons que la règle du jeu doit être changée. Que quand les dés sont pipés, eh bien on change de dés. En ce sens, la 5ème République a fait son temps. Et qu'il faut maintenant rassembler une assemblée constituante pour définir une nouvelle façon, un nouveau contrat social et une nouvelle façon de penser la nation. En tout cas, son fonctionnement.
Sans président ou présidente ?
Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais ça sera à l'assemblée constituante de le dire.
Oui.
Si on peut sortir de la monarchie présidentielle, bien sûr, c'est, ce serait merveilleux.
Puis, dernière question. Et toi, parlons un petit peu de toi, quelle place t'as envie de donner à la politique dans ta vie future ? Un engagement électoral ou rester dans le militantisme ou président, peut-être ?
Président, je pense qu'il faut, de sacrées épaules pour être président. Et je pense qu'il faut... je ne sais plus qui est-ce qui disait qu'il fallait le vouloir depuis tout petit pour être président. Moi, je ne veux pas être président, je ne suis pas du tout un monarque en devenir, et même si j'étais président, il y a des gens bien plus capables de le faire. En revanche, oui, il y a des mandats électoraux qui pourraient peut-être m'intéresser. Je ne suis pas élu, je ne suis pas du tout... Je n'ai jamais été élu, d'ailleurs, je n'ai jamais été candidat à une élection. Mais bon, les régionales approchent, Les législatives aussi vont arriver dans la foulée. Pourquoi pas tenter les législatives, qui sait? Ça pourrait être intéressant.
Il nous reste quelques minutes, du coup je pense qu'on peut aussi parler un petit peu de la mairie de Tours. Est-ce que, alors t'as dit que t'étais pas élu, etc., mais est-ce que tu peux nous dire à peu près la place ou le rôle que pourrait apporter la France Insoumise à la mairie de Tours?
Mais à la mairie de Tours, nous avons rejoint l'équipe de Pour Demain Tours, hein, donc ce collectif citoyen qui s'est monté à partir des cogitations citoyennes, et donc la France Insoumise de Tours a eu l'investiture de la France Insoumise, du national de la France Insoumise, pour rejoindre ce collectif de campagne, pour rejoindre cette équipe et cette liste in fine. Or, aujourd'hui, nous avons une équipe d'insoumis à la mairie de Tours, au conseil municipal, qui font un travail remarquable, qui prennent leur marque aussi pour l'instant, mais qui font déjà un bon boulot. Hein, je pense à ma camarade Marie, qui est adjointe au logement, camarade Maxence, Antoine, Éléonore et d'autres, qui sont au conseil municipal, voire au conseil métropolitain, et qui vont pouvoir agir concrètement, parce que c'est ça la politique, et le militantisme, c'est aussi d'arriver à terme à changer concrètement la vie des gens. On ne fait pas uniquement de la figuration, comme peuvent le faire certains groupuscules d'extrême-gauche, à hurler à l'occasion, et à ne rien faire in fine. Nous, on est là pour être dans le concret, pour changer concrètement la vie des gens. Alors évidemment, quand on arrive aux responsabilités, eh bien on fait tout pour appliquer notre programme, qui, je le répète, est l'avenir en commun.
Mais c'est pas un petit peu difficile de le mettre en place avec, justement, on parlait de la monarchie présidentielle, etc., avec le fait que tout soit centralisé à Paris, de changer les choses au niveau local?
On peut quand même agir sur différentes échelles, parce que fondamentalement, bien que la monarchie présidentielle, effectivement, et le côté centraliste de la capitale aient tendance à noyauter beaucoup de choses, on peut quand même changer les choses à l'échelle locale. Choisir de mettre des pistes cyclables, c'est un choix politique qui peut se faire à l'échelle locale. Le bio dans les cantines aussi, tout pareil. Donc on peut quand même agir à l'échelle locale. Avec le conseil métropolitain, la métropole, la mairie, les associations. Radio Campus est une forme d'action locale, et vous n'avez pas besoin du gouvernement, ou vous n'avez pas besoin de lutter contre le centralisme pour le faire.
si la mairie de Tours nous entend, oui. Les subventions, s'il vous plaît.
Je suis certain que si vous leur demandez, ils vous recevront avec plaisir pour en parler, par ailleurs.
On y va de ce pas. Merci d'avoir été avec nous.
C'était un plaisir, merci pour l'invitation.
De rien, quant à nous, on se retrouve le 10 août. À 11h sur Radio Campus Tours dans Parasol et Bordeaux-Loire. Au revoir Pauline.
Salut Raphaël. Salut Victor.
Salut.
Retrouvez le tour de l'actu de 11h30 à midi chaque lundi sur Radio Campus Tours pendant tout l'été.